Bonjour mes chers auditeurs. Eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez eu des beaux cadeaux qui vous ont plu, et puis aussi, est-ce que vous avez dégusté de bons mets ? Aujourd'hui, nous allons préparer la venue de la nouvelle année, c'est-à-dire le 1er janvier, bien sûr, qui semble être une évidence pour nous maintenant. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Les Romains, en fait, fêtaient la nouvelle année le 1er mars. C'était le mois du retour des beaux jours et de la guerre. Ce n'est qu'à partir de 46 avant Jésus-Christ que le nouvel an célèbre Janus, dieu aux deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers le futur. Une symbolique qui s'accorde avec le renouveau du cycle des saisons et l'idée de reprise du temps à son commencement. Et puis, étymologiquement, septembre, octobre, novembre, décembre, eh bien, sont respectivement justement le 7e septembre, 8e octobre, 9e novembre et 10e décembre, mois de l'année. En France, ce n'est qu'en 1564 que l'édit de Roussillon, décidé par Charles IX, fixe une fois pour toutes la célébration du Nouvel An au 1er janvier. Et en fait, c'est en Autriche, à Vienne, que l'on va trouver la tradition du concert du Nouvel An. Alors, écoutez, sans plus attendre, je vais vous emmener à Vienne pour l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui va interpréter la Vaterländischer Marsch, la marche patriotique. Une composition des deux frères, Johann et Joseph Strauss. Eh bien, vous voyez, on commence vraiment dans la joie, le bonheur. Et vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Vous connaissez la marche de Radetzky ? Eh bien, j'ai l'impression que les frères en ont mis un petit bout là dans leur composition de la Vaterlandsdichtermarsch. Alors, rassurez-vous, je vous passerai tout à l'heure la marche de Radetzky parce que c'est vraiment un incontournable des concerts de Nouvel An. Et donc, vous l'aurez tout à l'heure. Je voudrais vous parler de Hans Christian Lumbye. Il est né en 1810 à Copenhague et il est mort dans cette ville le 20 mars 1874. Il avait 63 ans. En fait, c'est un compositeur danois connu principalement pour ses valses, ses polkas, ses mazurkas. Dès l'âge de 14 ans, il commence à jouer de la trompette dans une fanfare militaire. Après, il devient membre de la cavalerie de Copenhague, tout en poursuivant ses études musicales. En 1829, après avoir écouté un orchestre viennois jouer des compositions de Johann Strauss père, il se met à composer, lui aussi, de la musique dans le style de Strauss, ce qui lui vaut d'être surnommé le Strauss du Nord. Vous voyez, pour moi, c'est aussi une découverte parce que vraiment, je ne connaissais pas ce compositeur. Alors, Hans Christian Lumbye, il va nous inviter à prendre le train de Copenhague avec son Copenhager Eisenbahndampfgalopp. Alors, c'est un galop, donc c'est une danse qui est assez rapide. Hein, et vous allez voir, c'est extrêmement drôle. On se croirait vraiment, en fait, à la gare. Alors, vous êtes prêts ? Vous avez préparé votre valise ? Ah ouais, je crois qu'on peut applaudir parce que c'est vraiment drôle. Vraiment, quelle inventivité il a eu, ce Hans Christian Lumbi. On a vraiment l'impression qu'on était dans le train. Voilà, vous êtes parti où? Pour Vienne? Ou pour Copenhague? Ou pour Berlin? Ou voilà, vous êtes parti peut-être à la neige. Ah, quel bonheur, quel bonheur. Alors, pour le premier de l'an, n'oubliez pas surtout d'aller acheter quoi? Ben, du gui, bien sûr. Hein, n'oubliez pas d'aller acheter du gui. Alors, pour vous embrasser, bien sûr, sous le bouquet que vous aurez accroché quelque part au plafond, voilà. On pensait autrefois que le gui avait des pouvoirs magiques, avec ses feuilles vertes en toute saison et ses baies blanches, comme des petites boules de lumière. Ce rameau d'or, selon les termes de Virgile, est le symbole de la vie et chasse l'obscurité. Enlacé autour des arbres fruitiers ou des chênes, le gui a l'étonnante particularité de ne pas toucher terre. Mais c'est parce qu'il est une plante parasite, disséminée par l'intermédiaire des oiseaux et qui se nourrit de la branche colonisée. Le gui a longtemps été considéré comme un remède miraculeux, longtemps utilisé dans les remèdes contre l'épilepsie, et au XIXe siècle réputé soigner la coqueluche. Vous voyez, on n'aurait pas imaginé ça. De nos jours, on le trouve à faible dose dans des remèdes contre l'hypertension ou les maladies cardiaques. Mais attention, hein, surconsommer, c'est un produit mortel. Alors, un qui nous a quittés aussi en 1907, eh bien, c'est Joseph Helmersberger II, compositeur, violoniste, chef d'orchestre autrichien. Il était violoniste solo de la chapelle de la cour de Vienne et professeur aussi au conservatoire de Vienne. En 1890, il est devenu le premier Hofkapellmeister à l'opéra de la cour de Vienne et de 1900 à 1903, il fut le principal chef d'orchestre de l'Orchestre philharmonique de Vienne. Alors on ne pouvait pas ne pas profiter de ce formidable compositeur avec, attention, sa danse diabolique. Eh bien voilà encore justement une œuvre magnifique, vous voyez, qu'on ne connaissait pas, ou peut-être vous d'ailleurs, cette Teufelstanz, la danse diabolique de Joseph Helmersberger. On va se tourner maintenant vers le profil d'Eduard Strauss, avec son père Johann. Et ses frères Johann Strauss II et Joseph Strauss II, ils constituent la dynastie musicale Strauss, qui domine pendant des décennies le monde musical de Vienne, en créant de nombreuses valses et polkas réputées dans toute l'Europe. Le style d'Eduard Strauss lui est propre, et il le distingue de ses frères, alors il n'a pas cherché à reproduire les œuvres. Connu comme chef d'orchestre et de musique dansante, plutôt que comme un compositeur majeur, sa popularité en fait a été éclipsée par celle de ses frères aînés. Sachant parfaitement ce qu'il en est, il choisit de créer son propre style en se spécialisant dans la création de polka rapide, connue en allemand sous le nom de polka schnell, schnell voulant dire rapide. Voilà. Alors je vous propose une de ses œuvres, étonnante parce qu'elle reprend les termes de Carmen et ça s'appelle Carmen Quadrille.
Thank you.
Eh bien, je trouve vraiment que danser un quadrille avec Carmen, hein, c'est quand même étonnant. Et vous avez vu, ça fait une espèce de patchwork musical. Mais vraiment, c'est très drôle aussi, je trouve. C'est vraiment, je suis très contente de ma trouvaille. J'espère que ça vous plaira aussi. Alors, on a parlé des Strauss, on a parlé de Vienne. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes français et que nous avons, nous aussi, eh bien, quelqu'un qui fait de la belle valse et qui est alsacien, c'est Émile Waldteufel. Il est né en 1837 et mort en 1915. Alsacien né à Strasbourg. Et toute sa famille, dans toute sa famille, ils étaient tous musiciens. La mère faisait du piano. Le père et le frère étaient violonistes et aussi chef d'orchestre et compositeur de danse. Et en fait, vu le talent découvert d'Émile, la famille part à Paris pour permettre justement à Émile de faire carrière. À 28 ans d'ailleurs, il est nommé pianiste de l'impératrice, puis chef d'orchestre des bals de la cour, comme Johann Strauss, le grand rival. Mais lui, il était aux Tuileries, il était aussi à Compiègne à l'automne pour les fameuses séries de Compiègne, et il a été aussi à Biarritz en saison quand la cour partait là-bas au bord de la mer. Il ne quitta pas la France, malgré les offres de concerts qu'on lui proposait à l'étranger. On lui demandait à New York, à Londres. Voilà, il aimait bien rester en France, dans son pays. Et il est devenu plus tard chef d'orchestre des bals de la présidence à l'Élysée. Alors, c'est l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg qui vous propose la valse des patineurs d'Émile Waldteufel. Thank you. C'était la magnifique valse des patineurs de Émile Waldteufel, notre Alsacien né à Strasbourg et notre roi de la valse français. Mais on va quand même revenir à la famille Strauss. Ben oui, on est bien obligé parce qu'ils sont nombreux et vraiment, ils avaient beaucoup de succès au XIXe siècle. Cette fois, on va parler de Joseph Strauss, architecte, ingénieur réputé. Joseph est le personnage en fait le plus énigmatique de la dynastie. Il a été appelé à prendre la direction de l'orchestre familial, mais il ne se sent pas compétent. Mais avec les encouragements de Johann et devant la nécessité aussi de nourrir la famille, le timide Joseph commence à regret à suivre des cours de direction d'orchestre et de composition et de violon. Peu de temps après, il paraît en public. C'est aussi tout l'enthousiasme pour ce nouveau Strauss, qui ressemble tellement physiquement à Liszt, mélancolique, un peu pâlo, voilà. La mélancolie d'ailleurs qui émane de sa personne fascine. Il connaît un grand succès comme chef, du coup, mais aussi comme compositeur. Alors nous allons écouter l'Orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan, pour la Delirian Walzer, opus 212, c'est-à-dire la valse Delirium de Joseph Strauss. Quelle merveilleuse valse, cette valse délirium de Joseph Strauss. Alors, bien conformément à la tradition, bien sûr, le concert de Nouvel An à Vienne se termine toujours par le beau Danube bleu de Johann Strauss, cette magnifique valse que j'ai envie de qualifier de langoureuse, et après l'enchaîner, bien sûr, avec la fameuse marche de Radetzky. Alors, c'est ce que je vais vous proposer maintenant pour terminer cette émission de fin d'année. Mais d'abord, je voudrais vous souhaiter un excellent réveillon et une très très bonne et heureuse nouvelle année. Et bien entendu, on se retrouve, du moins je l'espère, en 2024. Eh bien là, vous êtes vraiment dans l'ambiance voilà, du nouvel an viennois. Hein, donc on n'y est pas encore. Bah, écoutez, j'avais peur de ne pas avoir assez de temps pour vous proposer tout ça. Mais il m'en reste encore un petit peu. Alors je vous remets un petit peu d'une œuvre de Waldteufel.